Eh bien, Barreille, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, déléguée à la ruralité et au pastoralisme. Avec vous, j'aimerais revenir sur un point que l'on a beaucoup évoqué cet été. On parle bien évidemment du loup, de la prédation, parce qu'il y a une demande qui a émané de la part des éleveurs. La demande, c'était de pouvoir prélever le loup dans les zones cœur de parc. À cette demande, la préfecture des Hautes-Alpes a répondu par la négation. Ça n'est pas possible. Il y a des chartes. Dans les zones cœur de parc, la biodiversité est strictement protégée. D'autre part, il y a un chiffre qui a été avancé aussi par les services de l'État. 7% de la prédation, c'est ce que représente la prédation dans les zones cœur de parc. Donc c'est infime, selon Cécile Bigot de Keyser, la préfète des Hautes-Alpes. Quelle est la posture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur vis-à-vis de ces annonces et de cette demande qui émane simplement des Hautes-Alpes?
Moi, je crois qu'il ne faut pas déplacer le problème. La prédation lupine, c'est un problème majeur au plan régional, puisqu'on concentre grosso modo 70% de la prédation nationale sur notre territoire. Et principalement, donc si je le fais dans l'ordre, dans le 06, le 04 et le 05, c'est la prédation elle-même qui est un vrai souci. Et la prédation, nous ne pourrons la régler que si nous régulons effectivement le nombre de prélèvements. Même si je reconnais qu'il y a eu un effort dans le plan loup, puisque nous sommes passés de 10% à 19% d'autorisation de prélèvement, il n'empêche que la natalité du loup, c'est grosso modo 23% supplémentaires tous les ans. Donc avec nos 19%, on n'arrivera jamais à réguler le loup et on sera toujours en forte augmentation, et donc en forte augmentation, bien entendu, aussi de prédation. Donc nous, la position de la région, c'est nous soutenons nos éleveurs, mais évidemment dans le respect de la loi.
Dans le respect de la loi, ça rappelle aussi cette période au tout début du nouveau mandat, hein, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur où une demande avait été faite, c'est de pouvoir réviser la convention de Berne. Cette demande n'a, semble-t-il, jamais abouti.
Alors, elle n'a jamais abouti parce que nous avions mandaté un cabinet d'avocats spécialisé, hein, sur le droit européen, qui a démontré, ou en tous les cas qui nous a fait savoir sa position, difficile de revenir sur la Convention de Berne. Nous étions seuls à porter cette demande. Si demain nous sommes quelques autres régions ou quelques autres pays, je pense que peut-être les choses pourraient évoluer. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut surtout nous battre pour avoir des améliorations sur le plan loup. Il faut surtout nous battre pour que les éleveurs puissent défendre leur métier, leur exploitation et leur vie tout simplement, parce que aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'attaque de l'homme, mais sans faire de paranoïa. Je crois quand même qu'il y a un véritable danger qui peut arriver.
Mais on a l'impression quand même d'un double discours entre votre discours qui rejoint celui des éleveurs, qui est de dire aujourd'hui il faut davantage prélever le loup, et de l'autre côté, le discours des services de l'État et du gouvernement, qui est de dire on va voir, on va bien sûr évaluer la population lupine chaque année, mais on va aussi amplifier les mesures de prévention et de protection. On ne parle pas de prélèvement.
Non, mais c'est là-dessus qu'on diverge complètement. Moi, c'est ce que je viens de vous expliquer. Vous prenez le ratio de natalité et le ratio de prélèvement, on aura toujours plus de loups que de prélèvement. Donc, on n'arrivera pas à régler cette affaire de prédation. Par contre, en termes de protection, il faut bien reconnaître qu'un certain nombre de protections ont été mises en place. Pas toutes très efficaces ou en tous les cas peu efficaces, je vais le dire comme ça. J'ai rencontré hier des personnes qui sont spécialisées notamment sur les chiens patous, et si vous voulez je vous en dirai deux mots. Il est évident que sans les chiens patous ce serait pire, mais que ça ne suffit pas non plus. Donc il y a un vrai problème, on ne sait plus comment prendre la chose, et moi je veux quand même rappeler que c'est le métier d'éleveur qui est en danger. Donc c'est ce qui est que le gouvernement doit entendre.
Vous êtes vice-présidente régionale à la ruralité. Parlons-en de la ruralité. On approche des élections municipales. De plus en plus de maires ont aujourd'hui et portent aujourd'hui le même discours qui est de dire on a le droit aujourd'hui à une politique à deux vitesses. Et la ruralité est très très souvent oubliée du gouvernement, si bien qu'aujourd'hui ils sont un sur deux pratiquement à ne plus vouloir se représenter aux élections municipales.
Alors, c'est la question que j'avais posée au président de la République lorsqu'il est venu à Gréoux-les-Mains. Je lui avais dit, il est urgent de réfléchir à un plan Marshall en faveur de la ruralité. Aujourd'hui, nous, la région, nous avons mis un certain nombre d'actions en faveur de la ruralité, mais c'est insuffisant, nous le savons bien, parce que les communes rurales, les plus petites en particulier, ont des difficultés, simplement pour assumer le fonctionnement, compte tenu des baisses conséquentes de dotations d'État qui ont eu lieu depuis donc déjà maintenant presque 6 ans. Donc c'est vrai qu'il faut réfléchir à ça. Ils sont très inquiets, les maires ruraux, par rapport aussi à la disparition de la taxe d'habitation. Et donc, évidemment, ils n'ont pas une réponse à ce jour très très claire. Ils sont très inquiets aussi par rapport aux taxes nouvelles qui viennent se rajouter et qui ne compensent pas leurs obligations et surtout leurs responsabilités. Je pense notamment à la taxe GEMAPI sur les cours d'eau, qui vient se rajouter sur la feuille d'imposition du citoyen, mais pour lesquelles la commune ne trouve pas son compte, ou la communauté de communes. Et donc là, ça pose, tout cela pose vraiment question, et je comprends totalement l'inquiétude des maires ruraux.
Et vous comprenez l'inquiétude des maires ruraux qui disent aujourd'hui, on est en train de déshabiller Pierre pour habiller Paul, parce que on nous enlève des compétences, on les transfère directement en communauté de communes. Finalement, aujourd'hui, si on veut se faire entendre, c'est à l'intérieur même des communautés de communes, mais nous, les maires, on n'a plus aucun rôle.
Mais c'est vrai, c'est les résultats de la loi NOTRe. On a voulu des communautés de communes à grande échelle, hein, et notamment des communautés d'agglos ou des métropoles, et effectivement, sans tenir compte forcément en plus de l'aspect de l'aspect géographique, tout simplement. Je pense notamment à Provence-Alpes-Verdon, fusion de 5 communautés de communes sur plusieurs vallées, sur plusieurs axes, évidemment qui n'ont pas les mêmes besoins, et évidemment que c'est très très difficile pour eux de faire entendre leur voix quand on n'a pas les mêmes besoins suivant qu'on est à Entrevaux ou suivant qu'on est à Alos. Donc tout cela c'est très très compliqué et je crois que là aujourd'hui ça me paraît difficile de revenir sur le schéma intercommunal, mais à la fois il est clair que les communes ont été déshabillées pour grande partie de leurs compétences.
Et donc, du coup, ce sera quoi leur avenir? Et le bon échelon, ce sera lequel d'ailleurs? Parce que plus les communautés de communes grandissent, plus les communes, eh bien, maigrissent. Mais on peut aussi parler des départements.
Ben, évidemment. Évidemment, on peut aussi réfléchir aux départements. Je crois qu'il était un peu dans l'esprit du gouvernement actuel de reparler du conseiller territorial. Là, nous n'en entendons plus parler. Mais c'était aussi un peu dans l'esprit du gouvernement actuel. Et le conseiller territorial, c'était la disparition des conseillers départementaux.
Et ça, ce serait une véritable erreur d'avoir ce super conseiller qui regroupe à la fois le conseiller régional et le conseiller départemental ?
Alors, je vais vous choquer, je vais certainement choquer certains, mais en ce qui me concerne, je ne crois pas que ça aurait été une erreur. Vous savez que c'était dans la proposition qu'avait fait Nicolas Sarkozy à l'époque, qui avait été rejetée par la gauche tout entière. Aujourd'hui, mettre en place des conseillers territoriaux, j'y verrais au moins un avantage, c'est qu'au plan régional, il y aurait une représentation beaucoup plus importante des départements ruraux.
Éliane Marais, parlons des élections municipales. Maligé, vous avez été élu maire sur Maligé il y a quelques années. Aujourd'hui, comment vous envisagez cette campagne des élections? Est-ce que l'optique d'une candidature pourrait se dessiner?
Bon, je suis très sollicitée pour repartir et pour porter cette candidature. Je ne vous cache pas que je ne le souhaite pas. beaucoup d'administrés sont venus me demander d'être candidate. Je ne souhaite pas. Par contre, ce que j'ai dit, c'est que j'étais prête à apporter mon expérience à une liste nouvelle.
Mais pourquoi ne pas repartir, Éliane Bareil?
Parce que je pense que j'ai été 31 ans élue municipale, dont 19 ans maire, et que, bon, s'il y a des gens qui ont envie de travailler et d'œuvrer pour leur village avec des idées nouvelles, je pense qu'il est normal de laisser la place. Par contre, je le redis, je suis prête à porter mon expérience passée et actuelle.
Et aujourd'hui, comment on peut vous définir au sein des familles politiques, Éliane Bareil? Vous étiez secrétaire départementale de Les Républicains, vous avez démissionné de ce poste, vous n'êtes plus non plus Les Républicains puisque vous n'avez pas renouvelé votre adhésion. Comment doit-on vous définir?
Moi, je suis très claire. Je fais partie d'un groupe à la région. Ce groupe, c'est celui du président Renaud Muselier, donc avec bien entendu les Républicains et tous les apparentés aux Républicains, en tous les cas tous ceux qui se sont présentés sous cette bannière. J'ai pas changé d'une virgule ma position. Je fais toujours partie de ce groupe. Je n'ai pas changé non plus de position. Je suis toujours quelqu'un foncièrement de droite, mais je garde ma liberté.
Un dernier mot, vous faites partie de la commission transport. Les transports, on en parle énormément dans les Hautes-Alpes, mais aussi dans les Alpes-de-Provence. Du côté des Hautes-Alpes, on parle beaucoup de la ligne ferroviaire entre Gap et Grenoble sur ce point d'interrogation. Est-ce que un jour, elle va fermer ou non? On a toujours des difficultés à obtenir des engagements, et notamment de SNCF Réseau.
Notre position à nous, région, c'est que effectivement, ce sont des lignes qui sont très importantes dans le cadre de l'aménagement du territoire. Donc moi, il ne m'appartient pas de répondre à la place de Philippe Tabarot, qui est lui-même le VP au transport, mais sachez en tous les cas que nous nous battons au quotidien pour défendre les intérêts de la région auprès de SNCF.
Et concernant les Alpes de Provence, on parle des chemins de fer de Provence, on en est où du train d'Épinay?
Alors, concernant les chemins de fer de Provence, nous attendons toujours le résultat définitif de l'enquête judiciaire. Tant que nous ne l'avons pas, nous ne pouvons rien envisager. Il est bien évident que dès que nous aurons ces résultats, ça passera par une étude sur une étude de travaux, une étude de faisabilité, et donc après une décision qui sera prise dans la foulée. Mais aujourd'hui, malheureusement, je ne suis pas porteuse de bonnes nouvelles, ni de mauvaises nouvelles d'ailleurs.
C'est un statu quo. Merci beaucoup, Éliane Bareil, d'avoir été avec nous ce matin dans le 8:30 d'Alpe 1. Merci. Je rappelle que vous êtes vice-présidente au sein de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci.
Merci à vous.